C'est donc Josué chapitre 2. Je vous rappelle les circonstances. Le peuple juif est à l'est du Jourdain. Il vient de terminer son grand voyage de 40 ans depuis l'Égypte et il s'apprête à rentrer dans la terre promise. Moïse est mort et c'est Josué qui est le chef de cette caravane nombreuse. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier la ville de Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour espionner le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus dans ta maison, qui sont entrés chez toi, car c'est pour espionner tout le pays qu'ils sont venus. » La femme, Rahab, prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Et comme la porte de la ville a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Les gens de Jéricho les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte de la ville après qu'ils furent sortis. Avant que les espions ne se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays et la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel vous a mis au sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par cet Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Les hommes en question lui répondirent « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans ce pays, attache ce cordon de fil cramoisi par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. » Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon votre parole. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon cramoisi à sa fenêtre. Les hommes partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. »
Alors on pourrait entendre cette histoire comme on écoute une histoire de Robin des Bois, c'est-à-dire une belle petite histoire qui se termine bien, des espions qui sont cachés par une femme et qui s'en sortent. Mais ce serait vraiment mal entendre cette histoire. Il y a ici une chose qui est très choquante, c'est que ces deux espions qui sont envoyés par Josué à Jéricho, ces deux espions vont d'abord chez une prostituée, une femme prostituée, c'est bien marqué comme cela dans la Bible. Et puis bien sûr, ils sont donc repérés par les renseignements généraux de la ville, le roi est au courant et ils échappent de peu à la mort grâce à l'intervention intelligente et rusée de cette femme prostituée, Rahab. En hébreu, elle s'appelle Rahab. Mais ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est pourquoi ils font une alliance aussi forte avec cette femme au point de dire « Notre vie est en jeu si on ne respecte pas cette parole ». Vous avez bien entendu, ils disent, si toi tu meurs, si on te tue, ben, c'est notre vie qui répondra. Nous-mêmes, notre vie, on nous l'enlèvera si on ne respecte pas cette alliance qu'on est en train de conclure avec toi. Est-ce que ces deux espions avaient l'autorisation de faire une alliance avec un seul des habitants de cette ville de Jéricho? La réponse est clairement non. Ils n'avaient aucun droit, aucune délégation de pouvoir pour faire une alliance avec Rahab. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Vous ne ferez aucune alliance avec qui que ce soit. C'est marqué dans Deutéronome 20, les versets 16 à 18, que je vous rappelle maintenant. Mais les villes de ces peuples-ci, que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, sont les seuls, où tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu voueras totalement par interdit. Vouer par interdit, ça veut dire exterminer, ne rien garder pour soi. Si c'est des êtres humains, des animaux, on tue. Si c'est des richesses, on garde rien. Tu voueras totalement par interdit le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périsite, le Hivite et le Jébusite, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Afin, il y a une raison à cela, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les actions abominables qu'ils font pour leur Dieu. Vous commettriez un péché contre le Seigneur votre Dieu. Voilà la directive que le Seigneur Dieu avait donnée. Elle était claire et précise. Il fallait lier aucun pacte avec qui que ce soit, aucune alliance avec aucun être humain dans les villes qui étaient destinée à être détruite. Et voilà, les deux espions font une alliance avec Rahab. Ils lui garantissent la vie sauve. Ils prennent une initiative qui va contre le commandement de Dieu. Et non seulement ils la prennent pour cette initiative, mais ils la prennent au nom du peuple qui est resté de l'autre côté du Jourdain, comme Claude vous l'a expliqué. Au nom de tout le peuple d'Israël, ils font une alliance avec cette femme et prennent sur eux cet interdit que Dieu avait posé sur la ville de Jéricho, que ça retombe sur nous, que ce soit nous qui soyons tués si on ne respecte pas cette alliance. Donc ils font une alliance avec quelqu'un avec qui il ne fallait pas faire d'alliance. Et en plus, on nous dit bien clairement, c'est rappelé dans le Nouveau Testament, que cette femme était prostituée. Je vous signale que la débauche est interdite, pas seulement à Israël, mais à toutes les nations, depuis l'alliance de Dieu avec Noé, c'est-à-dire avec toute l'humanité sortie de Noé, toutes les nations, aujourd'hui, sont sorties de Noé après le déluge. D'après la Bible, c'est comme ça. Et il y a des commandements minimum, il y a un minimum de commandements qui est donné à toutes les nations, la débauche en fait partie, c'est interdit. Et cette femme était une femme de débauche. Et ils font alliance avec elle. Comment vous expliquez cela? On ne brave pas impunément un interdit que Dieu a posé. Il y en a un qui a osé braver cet interdit. On apprend ça quelques chapitres plus loin dans Josué. C'est Achan. Lui, au moment de la prise de Jéricho, il a vu là quelques belles choses, quelques belles affaires. Au lieu de les détruire, comme Dieu l'avait ordonné, il les a prises secrètement, il a enterré ça dans sa tente, et la malédiction a reposé sur tout Israël à partir de là, elle n'a été ôtée que lorsqu'ils ont tué Achan avec toute sa famille sous un monceau de pierre qu'on voyait pendant des siècles en Israël, c'était la vallée de Achor. Achan, cet homme juif qui a enfreint l'interdit, qui a fait quelque chose que Dieu avait interdit de faire, il avait pris une partie des richesses de Jéricho pour lui. Ben c'est lui qui a subi le même sort que Jéricho. Il a été détruit avec toute sa famille sous un monceau de pierre. Et ça s'appelle, on connaissait ce lieu en Israël, c'est la vallée de Achor. Une vallée maudite où il y a eu une malédiction. Et après seulement, Israël a pu continuer à conquérir le pays. Voilà ces deux espions-là, ils ont enfreint l'interdit, ils n'ont pas été tués. Ils ont fait une alliance que Dieu avait interdite de faire. Alors, pourquoi? Il faut chercher. Pourquoi est-ce que Dieu est d'accord avec quelque chose qui est contraire à sa parole, contraire au commandement qu'il avait donné? On a la réponse. Quand on lit attentivement ce que Rahab dit aux deux espions, je lis une partie, verset 10. Nous avons entendu dire, voilà ce que dit Rahab, nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des joncs, on appelle ça la mer rouge d'habitude, la mer des joncs, lors de votre sortie d'Égypte. Nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des joncs lors de votre sortie d'Égypte. Et au verset 11, elle dit, nous l'avons entendu. Et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous. Car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut, dans les cieux. Et ici, sur la terre, votre Dieu est Dieu là-haut, dans les cieux, et ici-bas, sur la terre. Voyez que Rahab parle de quoi? De la Pâque qu'ont vécu les Hébreux en sortant d'Égypte. Ils ont été miraculeusement délivrés de la mort en traversant la mer Rouge à pied sec, la mer des joncs à pied sec, et les Égyptiens qui voulaient les poursuivre là-dedans, dans ce chemin-là, sont morts. Elle a la foi dans la Pâque. Elle a foi dans cet événement qui a créé le peuple d'Israël. Dieu, par sa puissance, a sauvé ce peuple d'une mort certaine en Égypte, d'une mort certaine dans la mer Rouge, où ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Eux ont traversé à pied sec. Ce miracle va se reproduire juste le chapitre suivant avec la traversée du Jourdain. Josué était encore de l'autre côté du Jourdain, comme Claude vous l'a dit, à l'est. Ils vont traverser aussi, encore une fois, le miracle va se reproduire. Ils vont traverser le fleuve du Jourdain, qui était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis des barrages partout. Donc, c'est un tout petit ruisseau, mais à l'époque, c'était un fleuve. C'est comme si je vous disais qu'ils ont traversé le Rhône ou quelque chose comme ça. Dieu, à Pâques, a prouvé aux yeux du monde entier, en créant le peuple d'Israël, parce que ce n'était pas un peuple, c'était un ramassis d'esclaves, il n'y avait aucune cohésion sociale entre eux. Il les a créés comme peuple. Donc il a montré qu'il est le Dieu de la création, le Dieu de la nature, puisqu'il peut faire passer à pied dans la mer un peuple entier, et qu'il est aussi le Dieu de l'histoire des hommes. Dieu en haut et Dieu en bas. Parce que maintenant, le peuple d'Israël, il existe. Il existe encore. Et tout le monde en est stupéfait, parce que ça fait 3000 ans. Et toute la haine qui se déverse contre lui sans arrêt, il n'a pas réussi à le supprimer de cette terre. Parce que c'est Dieu qui veut son existence. La foi de Rahab, elle est clairement exprimée. Et la foi dans le miracle de la Pâque, elle est mentionnée deux fois. Il n'y a pas beaucoup de femmes qu'on mentionne, dont on mentionne la foi deux fois dans le Nouveau Testament. Je vous cite Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 25. Je vous cite « Tel fut le cas aussi pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin. » Donc on parle de la foi de Rahab dans l'épître de Jacques. On en parle aussi dans l'épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 31. « Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, car elle avait accueilli pacifiquement les espions. » Donc c'est la foi de Rahab qui a mis les espions sur une autre piste que pas d'alliance avec cette femme, pas d'alliance avec cette habitante de Jéricho. Cette foi a fait changer les espions, alors leur a fait changer le commandement de Dieu. Parce que le commandement de Dieu, c'était aucune alliance avec qui que ce soit. Mais ils ont vu dans les propos de cette femme une foi qui venait de Dieu. Et alors, ils ont changé le commandement de Dieu. Ils ont fait alliance avec cette femme. Ils ont pris une décision contre le commandement de Dieu, mais avec l'accord de Dieu, qui n'est pas écrit dans le texte, mais ils n'auraient pas pu faire cette alliance s'ils n'avaient pas vraiment reçu une directive dans leur cœur de Dieu. Oui, j'ai donné ce commandement. J'ai donné ce commandement, pas d'alliance. Pas d'alliance avec qui que ce soit. Mais vous avez entendu ce qu'a dit cette femme. Vous avez entendu qu'elle croit à la Pâque. Qu'elle croit que je suis Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Vous avez entendu qu'elle croit ça. Elle fait partie d'Israël. Le texte nous dit, Josué 6, verset 25, « Rahab a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. » Remarquez bien comment c'est écrit. « Rahab a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. » On ne nous dit pas en périphérie,
comme les Gabaonites au chapitre 9 de Josué, on voit qu'eux aussi font alliance, mais ils restent à la périphérie. Rahab au milieu est tellement au milieu que vous allez la trouver dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1, verset 5, elle est ancêtre du Messie, du Sauveur de ce monde. Elle a participé à l'engendrement, à l'enfantement du Messie. Elle est au cœur d'Israël. Elle est vraiment au milieu. Pourquoi tout cela? Alors qu'elle était de Jéricho et prostituée, elle a cru. Elle a cru à la Pâque, que Dieu est Dieu là-haut et ici-bas. Elle a cru que Dieu dirige non seulement la création, non seulement la nature, ce beau printemps que nous avons sous les yeux. Tout ça, c'est Dieu qui a créé l'univers et la création avec toutes ses lois, toutes ses merveilles. Mais Dieu est aussi le Dieu ici-bas sur la terre, au milieu des hommes, au milieu de l'histoire humaine actuellement. Il est toujours Dieu. Même si nous voyons que le monde est dans le chaos, nous proclamons Dieu et Dieu là-haut et ici-bas. Il dirige l'histoire, il en donne la preuve dans la Bible, tout au long de la Bible, par l'histoire d'Israël. Ses esclaves sortis d'Égypte ont reçu une loi au Sinaï. Ils ont reçu un pays, ils ont reçu une capitale, Jérusalem. Ils ont eu un roi, ils ont eu des victoires militaires absolument surprenantes, défiant toute imagination. Ça, c'est le Dieu auquel Rahab s'est mis à croire. C'est-à-dire, il n'y a plus une multitude de dieux, comme tous les peuples pensent en général. Il y a un Dieu pour la politique, mais il y a aussi un Dieu pour ma vie familiale ou mon bonheur personnel. Et puis il y a un Dieu pour les finances, ça, le Dieu de la Bible ne va pas s'occuper des finances, non. Il y a un Dieu spécial pour les finances. Hein. Et il y a un Dieu pour la guerre, il y a un Dieu pour l'amour, voilà ce que font les religions. Elle a arrêté tout ça. Elle dit, il y a un Dieu là-haut, votre Dieu, il est Dieu, votre Dieu, le Dieu d'Israël, il est Dieu là-haut et Dieu ici-bas. Là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. C'est le Dieu un. Le Dieu qui est un en s'étant lié à Israël. Elle a découvert la foi en la Pâque, en le Dieu d'Israël. Et du coup, évidemment, la condamnation à mort qui reposait sur elle a été levée. Jésus n'est-il pas mort à Pâques? Il n'est pas mort à n'importe quel moment de l'histoire, du calendrier. Un jour précis du calendrier, Jésus est mort. C'est tellement important que il y a un jour précis que nous l'avons dit dans la confession de foi, il est mort sous Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est un personnage historique qu'on connaît par les chroniques de romaines, qui a fini sa vie ici, en Gaule, tellement il était cruel là-bas, en Palestine. On l'a mis un peu au placard. Jésus est mort le jour précis aussi de Pâques. C'est surtout l'évangile de Jean qui nous dit au moment où Jésus est crucifié, c'est la préparation de la Pâque. Vous trouvez ça dans Jean 19 ou 18, dans un des deux chapitres de Jean 18 ou 19. Jésus est mort au moment où c'était la préparation de la Pâque. Qu'est-ce que c'est la préparation de la Pâque? Un juif comprend tout de suite. Il doit amener l'agneau au temple, chaque famille. Pour chaque famille, il y a un agneau Cet agneau doit être égorgé dans le temple et une partie du sang ramenée à la maison. On met sur les linteaux des maisons une partie de ce sang. Donc il y a du rouge. Il y a du rouge sur les linteaux des maisons. Et la nuit de Pâques, toutes les familles égyptiennes, les familles des Hébreux au milieu de l'Égypte étaient regroupées dans leurs maisons avec le signe du sang de l'agneau à l'extérieur sur les portes. Rahab, elle mettra le signe de cramoisi, c'est du rouge aussi, à sa fenêtre. Et elle aussi rassemblera toute sa famille dans sa maison le jour où Jéricho sera détruite. Et pas détruite par une force humaine. Vous connaissez certainement l'histoire de Jéricho quand même, comment elle a été détruite. Il y a même un gospel là-dessus. Just speak the battle of Jericho, Jericho, and the walls came tumbling down. Donc, il tourne 7 fois, chaque jour une fois, et le 7e jour 7 fois autour de la ville. Avec quoi? Avec des armes, avec des chars, avec des avions? Non, avec le coffre de l'Alliance. Le coffre de l'Alliance porté devant, qui fait le tour de la ville de Jéricho. Et les sacrificateurs qui sonnent dans le chauffard. Le chauffard, c'est une corne d'animal, de bélier ou peut-être de bouc. Et c'est une sorte de trompette qu'on utilise encore aujourd'hui pour le culte dans la synagogue. Nous serons nous-mêmes ressuscités au son du chauffard, d'après les textes de la Bible. Donc c'est une corne qui rappelle aussi le sacrifice d'Isaac. Enfin bref, au son du chauffard, et les murs se sont écroulés d'eux-mêmes, sauf le mur où il y avait la maison de Rahab. Donc les murs ont entendu, les murs ont eu des oreilles pour entendre la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, par la prière. Et notre vocation à nous n'est pas de tuer des êtres humains, mais de faire tomber des murailles qui séparent les hommes de Dieu, qui séparent l'humanité de Dieu, qui les séparent les uns des autres. Il y a des murs entre les gens, il y a des murs entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Dieu qui construit ces murs, lui, il ne demande qu'à les enlever. C'est nous qui construisons des murs entre nous et Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui les fait tomber. Mais nous ne tuons pas les gens. Mais nous devons piller toutes ces forteresses de l'ennemi où les gens sont enfermés, ils croient qu'ils sont en sécurité, mais ils vont mourir. Sauf s'ils écoutent cette parole de Dieu qui nous parle de la Pâque, en permanence. Jésus est mort et ressuscité à Pâques, à tel point que maintenant nous pouvons dire Pâques, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit Christ, notre Pâques a été immolé. Ça c'est dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Jésus appelle son passage vers le Père une Pâque. La Pâque, c'est passer d'un endroit de mort à un endroit de vie. C'est ça, Pâque. Un endroit où on est sûr de mourir. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais on est sûr de mourir si on reste là. Et un endroit où on est sûr de vivre, mais vivre toujours. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre la mort. C'est pas vrai. La mort n'est pas l'endroit où le moment où on passe automatiquement de la mort à la vie. Non. C'est Jésus qui est l'endroit. Jésus est notre Pâque. Si nous croyons comme Rahab que Jésus est à la fois celui qui est Dieu là-haut et Dieu sur terre, si nous croyons ça, nous sommes sauvés. Vous avez remarqué que Rahab ne commence pas à dire oui, oui. Elle n'était pas terrible ma vie jusqu'à présent, là. Il faut que je vous confesse un peu, là, mes péchés, là. Non, elle dit, votre Dieu est Dieu là-haut, dans les cieux, et ici-bas, sur la terre. Et ça suffit pour être sauvé. Qu'est-ce que Jésus nous dit pour être sauvé? Que faut-il faire? Il dit, à propos de ceux qui ont cru en lui, Jean 17, verset 8, « Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi. » Il parle à son père. « Ils ont connu, eux qui sont sauvés, ils ont connu que je suis sorti de toi. » Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui croient réellement dans leur cœur que Jésus est sorti de Dieu. C'est pour ça, dans le parcours Alpha, la première leçon, ou la deuxième, mais la première, c'est une introduction. La deuxième, c'est qui est Jésus? Ça, c'était la première leçon du parcours Alpha. Qui est Jésus? Si je crois qu'il est sorti de Dieu et que maintenant il n'est pas simplement reparti vers Dieu en nous laissant comme ça, nous dépatouiller avec nos problèmes, mais qu'il est reparti vers Dieu avec toute la nature humaine et avec tous nos péchés. Sur la croix, il a enlevé sur lui tous nos péchés. Ils ne sont plus sur nous, ils sont sur lui. Et il est allé vers Dieu, vers son Père. Pour que nous soyons sûrs d'être avec le Père toujours. Croire que Jésus est sorti de Dieu, qu'il est allé vers Dieu, que sa Pâque, c'est la Pâque qu'ont vécu les Juifs, que Rahab a vécu, ça, c'est être sauvé. C'est être au cœur d'Israël, car ce qui constitue Israël, c'est la Pâque. C'est le miracle de la délivrance. Amen.